VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Élection au Nigeria, les Vengeurs du Delta du Niger, un groupe militant qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations des régions pétrolifères du sud du pays, a menacé ce jeudi de s'en prendre à la production pétrolière nigériane si le chef de l'État, Muhammadu Buhari, est réélu lors du scrutin présidentiel de samedi. Les militants du groupe disent préférer une victoire d'Atiku Abubakar, le principal concurrent de Muhammadu Buhari à la présidentielle du 16 février. Pour leur part, le président Buhari et l'opposant Atiku Abubakar ont exhorté les Nigérians mercredi à éviter toute violence et à respecter le résultat des élections. Le point avec Jean-Roger Bion.
Messieurs Buhari et Abubakar ont signé l'accord passé entre plusieurs autres candidats. Ils appellent leurs partisans à éviter toute violence ou acte qui puisse mettre en danger le déroulement d'élections libres, justes et crédibles et s'engagent à respecter les résultats. Muhammadu Buhari a souligné l'importance de l'engagement citoyen. Son adversaire Atiku Abubakar, ancien vice-président, a appelé la commission électorale et les services de sécurité à rester neutres. Quelques 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi pour élire le président et les députés. 91 partis politiques et plus de 70 candidats sont en lice pour la présidentielle. Les scrutins régionaux sont prévus le 2 mars pour élire les gouverneurs des États et les assemblées locales. Les tensions ethniques, identitaires et religieuses ont souvent nourri des violences électorales dans le pays. Dans l'État du Delta, 5 personnes ont été tuées ce week-end. 3 bureaux de la Commission nationale indépendante électorale ont été incendiés et les cartes d'électeurs ont été distribuées dans le chaos.
Élection au Sénégal maintenant, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février bat son plein. Les candidats ont leur programme et les citoyens leurs attentes. Entamant sa série sur cette élection, notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, nous parle aujourd'hui des attentes des jeunes qui représentent les 2/3 de la population sénégalaise et dont la principale revendication est l'emploi. On écoute Sedina Abagay.
À Dakar, beaucoup de jeunes sont sans emploi et ils espèrent que le président élu va trouver le moyen de mettre fin à la croissance du chômage qui est estimée à près de 15% par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour Elef Sadio, le candidat qui sera élu devra mettre fin au favoritisme dans les recrutements.
Dans notre pays, pour qu'on puisse avoir un président qui va donner pour les jeunes du travail, pour qu'on puisse améliorer du secteur du chômage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes et sans travail. Et il y a des gens qui sont dans des postes et qui n'ont même pas de diplôme aussi. Si tu n'as pas de bras longs, tu ne travailles pas au Sénégal.
Pour Momodou, 36 ans, en plus d'amener une solution pour l'emploi des jeunes, le président élu devra également garantir plus de sécurité aux citoyens.
On les a écoutés. On attend aussi sur les candidats qu'ils réagissent sur l'emploi des jeunes. L'emploi et la sécurité de ce pays surtout.
Athanas Silva, lui, espère que le casse-tête de l'emploi sera réglé et que le futur chef de l'État pourra assurer de meilleures conditions d'existence aux Sénégalais.
Ce que j'attends des 5 candidats, c'est toujours le travail et essayer de satisfaire les besoins des Sénégalais, de la population qui les a élus pour les 5 années à venir.
De son côté, Serigne, 26 ans, estime qu'il y a des acquis à consolider et des choses à prioriser pour les années à venir.
Bon, en général, je peux dire que ça va, parce que là, j'ai vu beaucoup de réalisations, mais d'une part aussi, je peux dire que ça ne va pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Donc, vu leur comportement, leur façon de faire et leur priorité aussi. Parce que dit que il y a des priorités. Je peux citer un exemple, la terre. On n'en a pas besoin, sérieusement. De moi, à mon avis, on n'en a pas besoin. Parce qu'il y avait d'autres priorités que la terre.
Au Sénégal, les principales attentes des jeunes tournent autour de l'emploi car des milliers de diplômés sont au chômage ou sont obligés de s'orienter vers le secteur informel pour avoir des revenus décents. Pour les jeunes citoyens rencontrés, le président qui sera élu le 24 février devra régler en priorité le problème de l'emploi. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, le député Alain Loboyon, un proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a recouvré sa liberté après 2 semaines de détention. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tonkara.
et la mise en liberté immédiate.
C'est un homme libre que l'ancien ministre et député Alain Lobognon a quitté ce mercredi la salle de la cour d'appel pour regagner son domicile. Le 29 janvier, ce député proche de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, avait été condamné à un an de prison ferme pour divulgation de fausses nouvelles et incitation à la violence. Il avait posté un tweet annonçant l'arrestation d'un autre député. La peine a été revue par la cour d'appel. Alain Lobognon écope désormais de 6 mois de prison avec sursis. Ses avocats affirment cependant qu'ils vont se pourvoir en cassation. Maître Afousiata Bamba Lamine.
Pour nous, il est important de pouvoir aller en cassation. On va saisir la Cour suprême parce qu'on estime qu'en réalité, il n'y avait aucun élément qui permettait de condamner notre client. Alain Lobognon, c'est un frère, donc je ne peux qu'être heureuse qu'il soit libéré. Mais en même temps, je vous dis, on n'est pas totalement satisfait, nous les avocats. Parce qu'on estime que le droit n'a pas été réellement dit jusqu'au bout.
Dans leur plaidoirie, les avocats d'Alain Lobognon n'ont pas manqué de dénoncer l'instrumentalisation de la justice pour régler des différends politiques. Âgé de 50 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de 2011 à 2015, ancien directeur de la communication des Forces Nouvelles et très proche de Guillaume Soro, le député Lobognon qui avait cessé dimanche une grève de la faim est donc sorti des prisons soulagé. Il a aussitôt rendu visite à Guillaume Soro. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, Maurice Kamto, le principal opposant, a été inculpé pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Il est transféré par la suite à la prison centrale de Yaoundé. Les détails avec Raïssa Girondin.
Maurice Kamto, 64 ans, avocat de renom et ancien ministre, a été présenté avec 26 de ses partisans devant le tribunal militaire. Ils ont été inculpés de rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie. 5 ont été libérés sous caution et 22, dont M. Kamto, ont été transférés à la prison centrale de Yaoundé. Kamto et les autres accusés peuvent encourir la peine de mort, légale au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Maurice Kamto est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, loin derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif. Il a qualifié la victoire du président sortant de « hold-up électoral » et a plusieurs fois appelé à des marches de protestations interdites. Depuis son arrestation le 28 janvier à Douala, Maurice Kamto était en garde à vue dans les locaux d'une unité spéciale de la police à Yaoundé. Son mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme que plus de 200 partisans ont été arrêtés en marge des manifestations contre la réélection de Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Selon les autorités, 147 personnes sont en détention provisoire et attendent d'être présentées à un juge.
Actualité aux États-Unis. Pour terminer, une proposition de loi visant à éviter un nouveau shutdown, une nouvelle paralysie budgétaire, pourrait être soumise au vote de la Chambre des représentants dès ce jeudi soir. Mais pour entrer en vigueur, le texte devrait également être approuvé par le Sénat, puis être promulgué par le président Donald Trump. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le président américain s'est déclaré mécontent de l'accord trouvé lundi par des négociateurs démocrates et républicains pour éviter une nouvelle fermeture partielle des agences fédérales ou « shutdown ». Cet accord n'accorde que 25% du financement que Donald Trump réclamait pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Mais le président américain n'a pas dit qu'il refuserait de signer une loi approuvée par le Congrès, laissant entendre qu'il pourrait trouver d'autres moyens de financement. Et il a répété hier qu'il ne voulait pas retomber dans l'impasse budgétaire.
I don't want to see a shutdown. Shutdown would be a terrible thing.
Je ne veux pas avoir un shutdown, ça serait terrible.
Ces déclarations rendent les républicains et les démocrates optimistes sur l'adoption de cette loi budgétaire avant la date butoir de vendredi à minuit.
Et toujours concernant l'actualité américaine, la Cour internationale de justice, la CIJ, a jugé mercredi recevable la demande de l'Iran en vue de récupérer près de 2 milliards de dollars d'avoir iranien gelé aux États-Unis. Le gouvernement américain souhaite que ces fonds aillent aux victimes d'attaques attribuées à Téhéran. Washington avait déposé une requête contre la demande iranienne en soulignant que l'Iran avait les mains sales au vu de ses liens présumés avec le terrorisme et que la CIJ n'était pas compétente dans cette affaire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.